Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une super belle journée. Aujourd'hui, j'ai créé un épisode qui s'appelle « The Good, The Bad and The Ugly ». Je voulais juste un titre accrocheur, simplement. Le but, c'est de passer avec vous des pratiques que je trouve bonnes dans le domaine de l'entraînement, des pratiques que je trouve mauvaises dans le domaine de l'entraînement et des pratiques auxquelles je m'oppose de façon viruleuse, je ne sais pas si ça se dit, mais des choses que je trouve vraiment plates et à éviter. Okay? Fait que on va tirer un peu partout. Mon but aujourd'hui, c'est juste de rentrer l'éducatif en l'intérieur de ça. Et je vais parler d'une multitude de sujets. Et vous le savez, mon objectif, quand je fais des podcasts, quand je prends parole, quand je fais des vidéos, c'est pas d'être malveillant envers personne, c'est pas de porter des jugements gratuits, c'est simplement d'essayer de faire avancer les choses, puis c'est d'avoir une discussion qui est ouverte, puis juste une réflexion, puis c'est juste d'être en mode exploratoire. Exploratoire de certaines croyances, de certaines tendances, de certaines modes, et qu'on en parle ensemble sans nécessairement tirer sur quelques personnes en disant ça c'est pas bon, ça c'est bon, mais juste qu'on on est dans un but observatoire, puis on explore, puis on regarde comment ça se passe, puis on donne un peu notre opinion. Puis mon but, c'est juste de vous faire réfléchir et mentaliser sur certains sujets. C'est pas d'être trop cut corner. C'est sûr que mon titre peut avoir l'air un peu peut-être dramatique, le bon, le mauvais et le vraiment mauvais. Mais mon but, c'est juste que je vois tellement de choses passer dans les 17 dernières années, puis j'aimerais ça juste porter certaines choses à votre attention, des choses auxquelles je vous dirais de faire plus attention, d'autres choses que je vous dirais de sauter à pieds joints et c'est ça. Donc, on va y aller, on va faire du good, on va faire du bad et on va faire du ugly, on va tout mélanger ça. Donc, quelque chose de good que je trouve dans le domaine actuellement du fitness, mais quelque chose de good, je trouve, c'est l'accès à l'information. Tu sais, il y a de ça vraiment un bon bout de temps, c'était difficile d'avoir accès à de la bonne information, il fallait que tu prennes des cours. Fallait que tu aies l'université, qui est encore, je vous le dis, la meilleure manière d'aller chercher l'information. Mais c'était plus difficile. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a accès à beaucoup plus de stocks, surtout avec YouTube. Le but, vous avez la facilité de trouver des gens en qui vous mettez votre confiance, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Puis, quand ils vont vous donner de l'information, bien, vous allez savoir que c'est quand même une source qui est fiable et qui est valable. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui utilisent une stratégie qui a été mise au monde par Gary Vaynerchuk il y a de ça quelques années avec un livre qui s'appelait Jab, Jab, Right Hook. C'est une stratégie de marketing vraiment basique qui disait que plus tu donnes d'informations gratuites et de haute qualité à une audience, plus que cette audience-là va un jour inévitablement vouloir consommer ton service haut de gamme, donc payer pour tes services. Et il y a 10 ans, c'est la stratégie que j'ai utilisée avec mon entreprise, puis ça a porté fruit. Donc, c'est donner d'informations de qualité. Ce qui est cool là-dedans, c'est que bien, vous avez plein d'informations gratuites un peu partout sans nécessairement avoir à payer un seul sou pour ça. C'est ça qui est cool. Quand j'ai commencé dans mon domaine, beaucoup de gens disaient que j'étais fou, que je ne devais pas faire ça, donner de l'information gratuite, que c'était pas bon pour les coachs et tout ça. Et tu vois, aujourd'hui, c'est tout un autre discours. Tout le monde le fait. Et je trouve que c'est une bonne chose dans l'industrie du fitness que ce soit ça, parce qu'en bout de ligne, peu importe comment que ça se passe, comment vous voulez twister ça, ben c'est les consommateurs, c'est vous qui en sortez gagnant. Fait que ça, c'est la première des choses. Une autre chose qui est good aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on vient aux sources. Malgré la popularité de certaines diètes extrêmes, que ce soit le jeûne intermittent, la diète keto, la diète carnivore, tous ces trends-là, ben il y a un grand mouvement actuellement d'un retour à la science. Donc, qu'est-ce que la science? Comment ça marche? Calorie in, calorie out. Donc, on se tient à quelque chose qui est vraiment de base. Fait que ça, c'est vraiment cool. J'adore ça parce que pour des gens comme moi qui a basé son modèle d'affaires sur justement sur la science puis sur la vérité de qu'est-ce qui se fait puis je tente de me garder le plus à jour possible par rapport à mes connaissances, puis par rapport à ce qui se fait de nos jours, ben c'est sûr que je peux juste saluer ça. Fait qu'il y a comme un retour un peu du balancier à arrêter d'essayer de trouver 42 façons d'arriver à ses fins, mais de comprendre que la base, c'est la base et que la base, elle est excellente. Un autre point que je trouve vraiment bon, c'est qu'il y a des gens comme Andrew Huberman, il y a qui est neuroscientifique, il y a des chercheurs, il y a des PhD comme Lane Norton, comme Paul Attia, il y a beaucoup de spécialistes actuellement des PhD qui donnent de l'information sur le web parce qu'ils ont des podcasts, qui ont des sponsors, donc ils peuvent vivre de ça. Et c'est tellement le fun parce que c'est des mines, c'est des gars tellement brillants, qui ont fait tellement d'études, qui ont tellement cherché. Donc, pour vrai, c'est des joyaux qu'il y a sur Internet et je salue ces choses-là et j'adore ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment good actuellement dans l'industrie du fitness. Quelque chose d'autre que je trouve vraiment good, c'est que ça revient à la mode, le fitness. Moi, ça fait 17-18 ans que je suis là-dedans et c'est par vague. Hein. Des fois, c'est bien populaire, des fois, c'est moins populaire, des fois, c'est bien populaire. Et au début de ma carrière, c'était super populaire parce que c'était comme crime, il y a une épidémie d'obésité, les gens grossissent, les gens mangent mal. On prenait beaucoup les États-Unis comme exemple. Regardez comme ils sont gros, regardez comme ils sont pas en forme, regardez comme ils mangent de la friture, wash, wash, wash. Puis là, pendant un certain temps, pendant quelques années, c'était comme non, c'est correct, on mange qu'est-ce qu'on veut, il y a un facteur psychologique à ça qui est associé, qu'il ne faut pas se limiter. Si quelqu'un est en surplus poids, ben c'est majoritairement, c'est souvent à cause de sa mauvaise génétique. Il ne faut pas empêcher personne de manger qu'est-ce qu'il veut. Il faut arrêter le body shaming et tout ça. Et là, il y a eu un retour de comme non, là, l'entraînement, c'est healthy. Puis là, je trouve qu'en ce moment, on est dans une bonne ère parce que c'est comme. C'est pas comme si t'es gros, t'es une mauvaise personne, si t'es mince, t'es une bonne personne. C'est plus you do you, tu fais ce que tu veux avec ton corps. On est rendu assez intelligent avec l'information qui est véhiculée sur le web pour comprendre qu'effectivement, il y a des différences majeures au niveau du métabolisme. T'as des gens qui ont des métabolismes là, génétiquement parlant, il y en a d'autres qui ont des métabolismes rapides. Fait que c'est pas parce que tu manges une poutine dans le métro puis que tu es une personne en surpoids que nécessairement tu vas vivre du jugement plus qu'une personne mince qui mange une poutine. Okay? Fait que ça, je trouve ça le fun. On dirait qu'il y a comme une ouverture d'esprit qui s'est faite dans notre société envers l'alimentation et l'apparence des gens. Par contre, je trouve ça vraiment cool parce que la santé générale est toujours mise plus de l'avant. Quand j'ai commencé, il y avait 400 000 Québécois qui s'entraînaient, qui bougeaient, qui faisaient de l'activité physique. Et j'ai pas les statistiques aujourd'hui parce que c'est pas le type de statistiques que le gouvernement du Québec met beaucoup à jour sur leur site, mais je serais prêt à mettre ma main au feu qu'il y a beaucoup plus de Québécois qui s'entraînent et qui bougent, qui font du sport, bref, de nos jours. Fait que ça, je salue ça, c'est vraiment une bonne affaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment des bons moves au niveau de l'entraînement et tout ça, c'est qu'en plus que c'est rendu mainstream, ben il y a comme un côté vraiment body positivity, mais qui n'est pas toxique. Fait que c'est, il y a beaucoup de gens qui ont confiance en eux plus qu'avant par rapport à leurs différents frame types, tu sais. Avant, c'était comme pour les femmes, si tu as l'air d'une mannequin, Victoria's Secret, ouh, c'est ça qu'il faut, mais c'est un petit peu gras, ça c'est pas correct. Mais aujourd'hui, je me rends compte que il y a différents body types qui est promu puis qui est mis de l'avant puis grâce à des célébrités, grâce à X, Y, Z personnes. Puis ça, je trouve ça le fun. Fait qu'on a dissocié la beauté de l'enveloppe corporelle, gros, mince, grand, petit. Fait que ça, c'est le fun. On ne mélange plus, en tout cas, dans ma tête à moi puis je pense que dans mon entourage ou dans qu'est-ce que je vois, ce discours-là n'est plus, c'est pas parce que t'es en surpoids que, tu sais, la beauté et la composition corporelle est comme moins mise de l'avant. Fait que ça, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une avancée. Je trouve qu'on évolue en tant que société parce qu'à un moment donné, la beauté, puis si t'es gros, si t'es maigre, ça n'a pas rapport entre les deux. Tu sais, tu peux être, quelqu'un peut, tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Et je salue aussi qu'il y a des gens qui, entre guillemets, qui ne fitent pas dans les standards de grosseur ou de maigreur là, qu'on a tendance à penser, qui s'en foutent, tu sais, qui s'en sacent, puis qui vont pas se sentir mal à l'aise de leur apparence, puis tant qu'ils bougent. Puis c'est ça que je suis vraiment content. Moi, j'ai vu l'évolution, puis tu sais, les gens comprennent que bouger, c'est bon pour la santé physique, la santé mentale. C'est juste bon d'être fort, d'être bien pour la densité osseuse, pour la stabilité, pour la longévité, pour l'absorption du calcium au niveau des os. Tu sais, pas juste pour « hey, je vais être fit ». Fait que ça, je salue ça. Et j'espère aussi que la Gen Z, là, la génération Z qui suit les millennials, seront aussi dans ce même bagwagon-là. Que l'important, c'est juste de bouger, d'être actif, manger des aliments qui sont sains, qui nous nourrissent au-delà de qu'est-ce qu'on a de l'air tout nu dans le miroir ou dans notre petit kit Gymshark ou whatever quoi. Fait que ça, c'est des aspects que je trouve archi positifs du fitness actuellement. Une autre chose aussi, c'est la curiosité des gens. Les gens sont de plus en plus informés, sont de plus en plus curieux. Et en étant curieux, ça pousse les professionnels, ça pousse les spécialistes à toujours repousser leurs limites. Fait qu'à donner plus d'informations, donner de l'information qui est de qualité. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment sharp. The bad, il y a des choses que malheureusement qui ne changent pas et que je ne trouve pas tant nice. Il y a la mode actuellement de s'entraîner sans souliers. Puis là, je fais souvent des blagues avec ça et tout ça, mais tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la stabilité des orteils puis tout ça, ça peut être intéressant. J'ai écouté un reportage de ça quelques années avec Georges Saint-Pierre. Et Georges Saint-Pierre, dans ses muscles qui sont faibles, lorsqu'il combattait, c'était ses orteils. Fait qu'il fallait qu'il s'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de la poigne de ses pieds, de ses orteils, les muscles. C'est des muscles de pied qu'on n'a pas de tendance à utiliser versus des souliers. Là, il y a plein de monde qui ont dit « Non, mais t'es pas supposé à porter des souliers. Ça rend paresseux certains muscles des pieds. » Puis tu sais, je suis en posturologie, puis ça, puis je suis 100% d'accord avec ça, là. Mais tu sais, des fois, je trouve qu'on... Puis ça, c'est juste mon avis personnel, là, puis je le dis avec le plus grand respect pour des gens qui ont probablement plus de connaissances que moi dans le domaine, mais tu sais, je trouve des fois que les souliers n'ont pas été inventés pour rien, là. Si tu marches au gym, puis tu piles sur un morceau de quelque chose, puis tu pognes le tétanos, c'est pas le fun, là, tu sais. Les pieds sont là pour nous stabiliser, mais ils sont juste là, en fait, pour nous protéger, tu sais. Puis il y a une façon de trouver des souliers au gym, pas des souliers de course, ni des souliers plateforme, ni, tu sais, des souliers bien normaux, là, qui sont faits pour l'entraînement, c'est possible d'en avoir qui vont vous coûter 70-80$, puis avec ces souliers-là, vous êtes capable de vous entraîner, puis que ça soit sécuritaire. La réalité, c'est que si, je sais pas, il y a un dumbbell qui tombe dessus avec ton pied, c'est sûr que ça va te faire mal, mais ça risque de te protéger plus que si tu es en pied de bas. La deuxième des choses aussi, c'est, je sais pas si vous le savez, mais tu sais, il y a des bactéries comme le colis puis ces affaires-là qu'on retrouve souvent en dessous de la semelle des souliers quand tu arrives chez toi. Mais moi, ça me tente pas d'avoir ça en dessous de mon bas, parce que si vous avez des bactéries comme ça, vous rentrez chez vous, ben vous êtes en pied de bas, vous mettez le colis partout chez vous, puis c'est juste dégueulasse, puis c'est juste pas salubre à un moment donné. Je comprends que des gars comme Chris Bumstead s'entraînaient avec ça, qui est un, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un champion de culturiste assez connu en ce moment. Il est jeune, il est beau, il est en forme. Fait que il y a beaucoup d'abonnés sur Instagram. Là, on parle, je pense, plus de 10 millions. Fait que les jeunes garçons, les jeunes gars relate beaucoup sur lui parce qu'ils trouvent qu'il y a du succès. Il y a une belle blonde, il y a une belle vie, il y a l'air gentil, il y a une belle shape et tout ça. Mais relate beaucoup sur qu'est-ce qu'il fait, puis il l'a fait. Puis là, j'ai vu une fois quand c'est un gars que je suivais, que je trouvais pertinent aussi dans ses trainings. Puis quand il a commencé à faire ça, j'ai commencé à voir plein de monde le faire dans les gyms. Mais tu sais, en tout cas, moi, mon avis personnel, je suis peut-être. Ça fait peut-être mon oncle, mais je trouve ça dégueulasse. Là. Des souliers, genre quand. Des pieds de bas. C'est pas salubre, c'est pas la même chose qu'une semelle. Fait que. Puis il y a des risques de blessures aussi. Fait que quand je vois. Oups, ça c'est mon chien. Quand tu vois quelqu'un se promener avec des pieds de bas, moi je suis off, là, surtout dans un gym. Surtout quand tu sais le nombre de fois que c'est le gym, souvent, ben, ça va être lavé. Parfois une fois par jour, parfois une fois par semaine. Fait que. Bref, on essaie d'être salubre, les amis. Fait que ça, je trouve que c'est pas quelque chose nécessairement qui serait à garder dans l'univers du fitness. Quelque chose d'autre qui est bad aussi, c'est de penser qu'il faut tout le temps faire du squat, du bench, puis du deadlift, puis ça fait partie d'un programme d'entraînement, puis ça. Ben, on s'est rendu compte, là, tu regardes les choses aller, tu prends le temps de regarder la biomécanique, puis tu te rends compte que tu n'es pas obligé de faire des squats, du bench, puis du deadlift. Oui, tu peux garder des patrons moteurs similaires qui font des mimiques de ça, mais je donne un exemple du deadlift. Deadlift, un lift de la mort. Pourquoi? Parce que tu peux te péter le dos, quelque chose de rare. Je dis pas si tu fais un deadlift avec 50 livres juste pour être fonctionnel de quand tu ramasses tes boîtes à la maison ou des choses comme ça. Là, je peux saluer ça, puis ça crée un travail intra-intermusculaire, une connexion au niveau du cerveau et tout ça. Mais le but, c'est de deadlifter du 300-400 livres pour faire une vidéo, un reel ou juste pour impressionner ou toi te prouver quelque chose. Mais on est ailleurs que ça. Faut mettre l'ego de côté puis penser à d'autres choses. Je me suis pété un hernie discale en faisant du gros deadlift pesant, même si ma technique était super belle. Maner des tissus mous, c'est des tissus mous. Là. Tu sais, si tu mets un stress excédentaire sur un tissu, bien, ça se peut que ça snap puis que ça soit négatif à ce niveau-là. Fait que ça, je trouve ça plate qu'on ait encore ces dogmes-là de penser que, OK, ben il faut que tu fasses telle chose ou telle chose ou telle chose pour avoir des résultats comme les squats, le bench. Tu sais, le bench, là, quelqu'un qui est très très dominant des épaules puis qu'il y a une mauvaise posture, la réalité, c'est probablement que le bench va faire travailler plus ses épaules et surtout ses triceps que ses pectoraux. Fait qu'à un moment donné, il faut juste lâcher un peu ce dogme-là et passer à d'autres choses. Une autre chose que je trouve bad aussi, c'est les espèces de comment que j'appelle? Les espèces d'obsessions momentanées pour quelque chose à cause que TikTok s'enflamme là-dessus, genre la créatine. Pendant un an, là, le monde capotait sa créatine. C'était rendu genre plus important quasiment que de l'eau potable pour vivre. Les gens, non, mais c'est du monde de la créatine, non, mais j'ai vu TikTok. Puis tellement là, que les prix ont monté au niveau international, tellement là, que le monde en a parlé. Tu sais, la réalité, c'est que la créatine, c'est un supplément qui est correct. Là. Ça fait longtemps que c'est étudié. Ça va augmenter de 5% tes performances. Okay? Final, bâton. Fait qu'il faut arrêter de penser que le Saint Graal existe à quelque part. Là, tu sais, fait que les buzz créés par les réseaux sociaux sur des suppléments, ça me gosse profondément. Est-ce que la créatine, c'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a du turkesterone, c'est bon? Oui, c'est bon. Il y a du monde qui ont des résultats avec ça. Est-ce que ça va tout changer au niveau de vos résultats, de votre performance, XYZ? Ben non, pas en tout. Là. Ça reste 5%, c'est pas grand-chose. T'sais. Fait que faut juste le prendre en considération. Ça, je trouve ça poche que l'industrie soit comme ça des réseaux sociaux puis que les gens sont comme « Oh shit, je cherche tout le temps de next big thing » puis il n'y en a pas de next big thing, tu sais. Fait que ça, je trouve ça plate. Une autre chose que je trouve un peu dommage de l'univers aussi du fitness actuellement, c'est c'est un peu le fait qu'on classifie des choses. Le cardio, c'est pour perdre du poids, la muscu, c'est pour avoir des gros muscles, puis mais c'est pas ça, tu sais, la réalité, c'est pourquoi faire de la musculation? Prévention de blessures, augmentation de densité osseuse, augmentation de force, donc directement relié avec une augmentation de la longévité. Techniquement, là, ça devrait être pour ça qu'on s'entraîne. Cardio, augmentation du VO2 max, augmentation de la pompe cardiaque, augmentation du bassin cardiaque, diminution de la pression artérielle. Fait que ça amène des... Mais là, c'est comme, non, cardio, c'est pour perdre du gras, muscu, c'est pour avoir des gros muscles, ta. Fait que ça, je trouve ça dommage qu'on rentre les choses comme ça. Excusez-moi, ça, c'est un tracteur qui passe. Je suis en pleine rénovation chez moi. Fait que on reste focus, les amis. On reste focus. C'est ça, tout faire... C'est ça être autodidacte. Hein? Je me paye pas un studio, malheureusement. C'est dans mon sous-sol. Fait que... Voilà, c'est ça. Fait que ça, je trouve ça dommage. Quelque chose d'autre aussi que je trouve plate au niveau du fitness, c'est les gens qui vendent des plans d'entraînement, mais qui n'ont pas vraiment de connaissances en le domaine ou qui ont fait une dizaine d'heures de formation. Et encore là, je vise personne parce que la réalité, c'est que j'ai personne en tête tellement qu'il y a de gens qui le font. Puis il y a des gens qui ont qui veulent vraiment le faire puis qui leurs intentions sont full bonnes. Mais moi, je me rappelle quand j'avais genre fait Ataraxia, une formation de genre une ou deux fins de semaine parce que j'étais entraîneur chez Énergie Caso, j'avais 19 ans. Dans le temps. Puis je faisais des plans d'entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui, je regarderais mes plans, je les trouverais bons? Je trouverais sûrement qu'ils sont bons à 30%. C'est correct, 30%, mais c'est pas tant bon, tu sais. Tandis que tu as d'autres gens à côté ben, qui ont plus d'expérience. Est-ce que je suis en train de dire que les gens qui ont seulement une formation d'une fin de semaine ne devraient pas faire de plan d'entraînement? Ben, ils devraient en faire des plans d'entraînement pour eux puis pour leurs amis, mais pas charger le monde pour ça. T'sais, c'est ça que je trouve un peu dommage. T'sais, c'est comme, tu vas voir un comptable qui a écouté 2-3 vidéos YouTube pour savoir comment marche la comptabilité puis qui fait sa propre, tu sais, qui est juste bon pour rentrer des factures dans QuickBooks. Ben non, tu irais voir quelqu'un qui a fait ses cours, qui a passé ses examens puis que ça fait une couple de temps qu'il le fait. T'sais. Fait que ça, je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui se lancent comme ça. Tu sais, je comprends l'entrepreneuriat, je salue ça, je suis comme kudos, puis c'est le fun, puis let's go, c'est trippant. Mais à un moment donné, quand tu le fais pour la vie du monde, c'est là que ça devient plus challengeant. En même titre que si tu pars un produit, tu veux vendre un produit, ben tu veux t'assurer que le produit que tu vends il est de bonne qualité, parce que sinon, on crime, c'est poche, là. Fait que il y a ce côté-là que je trouve un peu dommage en ce moment. Et les gens vont beaucoup juger les gens sur leur physique. Est-ce que la personne est en forme? Oui. Elle est entraîneur? Oui. Ah, elle va me faire un bon plan d'entraînement. Mais la réflexion va pas plus loin que ça. Fait que ça, des fois, je trouve ça, autant qu'on est rendu très, très, très bien informé, autant que les gens, malheureusement, on est un peu dupes. On se fie toujours encore à l'apparence des gens pour délimiter leur niveau de connaissance, leur niveau de knowledge, puis à quel point ils sont compétents. J'ai vu du monde qui ont des génétiques exceptionnelles, ils ont des shapes incroyables, mais ils connaissent rien de l'entraînement, ils peuvent faire absolument n'importe quoi. Fait que ça, je trouve ça dommage dans notre industrie. Quelque chose que je trouve ugly, que j'aime vraiment pas, OK, c'est frauder le monde, c'est crosser le monde. Il y a des. Il y a beaucoup de compagnies et d'individus qui font des défis sur Facebook ou sur peu importe quoi, des défis transformation 30 jours et ces choses-là. Personnellement, est-ce que je suis contre les défis? Non, parce que ça va faire bouger le monde, puis le but, plus que les gens bougent, ben me dire c'est bon pour leur santé, OK? Lane Norton, le PhD, disait qu'il comparait, lui, il était dans un podcast avec Andrew Huberman, puis il comparait un peu cette espèce de trend-là, les défis transformation, à des compagnies de système pyramidal. T'sais. Je trouve ça un peu poussé, là. C'était un peu élevé, mais il était vraiment, vraiment, vraiment contre ça. Ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des compagnies qui m'ont dit, mettons que c'est un objectif de prise de masse musculaire, ben souvent, moi, j'avais entendu qu'ils disaient, ben, c'est facile, on va booster les calories aux gars, on va leur donner des hydrates de carbone, ben du sel, fait qu'ils vont gonfler, ils vont prendre de l'eau, puis ils vont devenir plus pesants, puis ils vont réussir de prendre du poids, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste, à un moment donné, utiliser la science pour des fins de marketing et non pour des fins bienveillantes. T'sais, clairement, si tu fais un défi de prise de masse musculaire, ben ça le dit masse musculaire. C'est pas augmentation de glycogène dans le muscle. Puis là, oui, tu peux jouer avec les mots puis dire oui, mais le glycogène dans le muscle fait partie du muscle. Puis je comprends, là, mais t'sais, à un moment donné, c'est. Je sais pas, je trouve des fois c'est un peu poche parce que n'importe quel bon entraîneur, puis même ceux qui font des défis 30 jours savent, là, tu leur parles là, one-on-one, tu leur dis « OK, penses-tu vraiment que tu peux transformer la vie de quelqu'un en 30 jours? » Tout le monde va dire « Ben non, ça prend de la constance, ça prend une certaine discipline, ça prend une adhérence, il faut qu'ils fassent ça pendant un certain nombre de temps, ils vont avoir des hauts, des bas, des fois ça va devenir dopaminergique, fait que là, ils vont pouvoir se tanner, puis ça. » N'importe quel entraîneur, même je serais prêt à dire l'ensemble des gens qui font du coaching vont vous le dire. 30 jours, c'est pas assez pour transformer quelqu'un. C'est un bon coup de pied dans le derrière, c'est une bonne bougie d'allumage pour partir quelque chose, mais c'est pas assez. Fait que souvent, les gens vont faire un défi en espérant convertir les gens qui ont fait le défi pour que ça devienne des clients potentiels par la suite. C'est une stratégie marketing qui est correcte. Pour vrai, je trouve ça vraiment le fun. C'est juste quand c'est vendu comme des défis. Celui qui perd le plus de gras en 30 jours, celui qui devient le plus gros en 30 jours, ben malheureusement, ça met un stress non nécessaire, puis ça enlève le focus sur pourquoi tu t'entraînes. Si tu peux avoir des résultats vite, 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 puis moi, on est des centaines à se battre pour essayer de dire au monde, la mise en forme, là, c'est pas à court terme. La mise en forme, c'est du long terme, c'est faire des habitudes de vie que tu vas faire toute ta vie, c'est là, c'est un processus de changement à l'intérieur. Moi, je donne tout le temps le même exemple aux clients. C'est comme du bambou. Les 3-5 premières années, il pousse pas dans les airs, il se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il est tout en train de faire son système de racines. Fait que toi, tu penses qu'il pousse pas, qu'il est quasiment mort, qu'il sert à rien, mais lui est en train de faire tout son système de racines pour un jour pousser, puis tellement pousser haut, devenir plus haut que des arbres, là, puis devenir plus solide que quasiment, je sais pas, là, un érable. Façon de parler, mais vous comprenez ce que je veux dire. T'sais, tout le monde le sait, c'est pas en 30 jours que tu as des affaires amazing. T'sais. S'il y a quelqu'un qui vient me voir, puis je suis malhonnête, puis qui me dit « Écoute, j'ai 30 jours, je veux avoir physiquement le plus gros résultat tout en n'utilisant aucune drogue, là, parce qu'il y a tout l'aspect des aides ergogènes, ben, je vais le mettre sur une diète low carb ou keto, fait qu'il va déshydrater, il va perdre de l'eau, fait qu'il va avoir entre guillemets l'air plus petit, l'air plus mince, parce que je veux dire, on est constitué vraiment beaucoup d'eau. Mais est-ce qu'il va être plus en santé? Ben non, il va se déshydrater, les risques de blessures vont augmenter, les performances vont diminuer, puis par la suite, ça va avoir un effet rebond qui va être extrêmement négatif pour lui. T'sais. Fait que c'est ça, je trouve juste plate. C'est pousser le monde à être dans un défi pour gagner de l'argent, gagner un concours, gagner ci, gagner ça pour changer son physique le plus rapidement possible. Mais la réalité, c'est que personne ne le garde après. Là. Quand tu es trop extrême, ben, à un moment donné, tu veux revenir à... J'ai jamais vu personne dire « Ouais, moi j'ai fait... » Peut-être que ça existe. S'il y en a un, tu peux m'écrire, je suis juste curieux. Me dire « Ouais, j'ai fait un défi 30 jours. Puis depuis, ça fait 5 ans, ça m'a donné des bonnes habitudes. Maintenant, je suis en bonne santé, j'ai maintenu ce poids-là et je suis heureux maintenant. » Mais non, ça marche pas comme ça. Là, fait que il faut que tu apprennes à aimer. Mettons que tu étudies un peu la science, la neuroscience en arrière de ça. Un client, il faut que tu lui apprennes à aimer le processus et non à vouloir avoir son instant reward. Parce qu'une fois qu'il va avoir son instant reward à la fin, ça va être très, très dopaminergique. Par la suite, il va crasher parce qu'il va se rendre compte que, wow, This is it. C'est juste ça. Je suis en forme pendant une semaine ou deux, puis là, je décide de fêter ça au McDonald's, puis le lendemain, on dirait que je perds ma définition, puis là, je crée des troubles alimentaires. T'sais. Je trouve juste que c'est une autoroute vers des habitudes qui sont malsaines. T'sais. J'ai rien pour les contre les gens qui le font. C'est une technique marketing. À un moment donné, il faut tout vivre de notre passion, mais quand c'est le client qui en souffre un peu, c'est poche. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des défis de façon plus saine? Ben, je pense que oui, mais il faudrait éduquer le client à côté là-dessus, puis ça serait pas sexy, ça ferait pas des grosses transformations. Pas de grosses transformations, moins bonne adhérence par la suite, puis c'est plus difficile à vendre le défi. Fait que c'est pour ça que beaucoup de coachs se disent ben, fuck off, là, je vais laisser peut-être mes valeurs de côté, puis la réalité, puis je vais essayer de faire de quoi de très, très, très extrême. Ça va me donner des photos avant-après qui vont être flamboyantes, puis je vais pouvoir pousser ça sur les réseaux sociaux. T'sais. Fait que c'est un petit peu ça. Puis encore là, tu sais, je fais très attention parce que il y a plein de gens qui font ça, mais qui le font pas pour les mauvaises raisons, puis qui pensent que c'est juste hey, j'ai vu un tel faire des transfos, j'ai vu ça aux États-Unis. Il y a Jennifer en Australie qui fait ça. Moi aussi, je veux le faire avec mes filles. Puis ça. Fait à la base, le but est pas mauvais. T'sais, ils veulent pas faire du mal, mais c'est souvent une mauvaise compréhension de la psychologie humaine, une mauvaise compréhension aussi du métabolisme. T'sais, tu peux faire crasher quelqu'un aussi. Tu fais pas de reverse diet. Fait que, t'sais, il y a plein de malheurs, de choses dommages. Fait que, t'sais, c'est juste de s'éduquer. Puis c'est juste. Tu sais, guys, pour de vrai, si je peux vous donner un conseil, là, dans la vie, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de secret. Tu sais, il faut travailler fort, longtemps, être constant, puis être bienveillant envers soi et tout le temps être dans un moment que tu essaies de t'explorer puis de te comprendre. Puis à travers tout ça, ben, ça va te permettre de progresser puis d'avancer. Tu sais. Fait que ça, je trouve ça plate. Fait que c'est un petit peu ça. Ça, je trouve ça ugly. Quelque chose d'autre que je trouve ugly aussi, puis que malheureusement, je m'en veux aussi un peu par rapport à ça, puis je vais faire une confidence aujourd'hui, c'est de vendre beaucoup trop de suppléments que ce que, exemple, les personnes ont. Tu sais, moi, j'ai été formé par un gars qui s'appelle Charles Polquin dans le temps, un de mes mentors. Puis quand j'ai commencé mon entreprise, il y a peut-être une dizaine d'années, j'étais beaucoup, beaucoup pro-supplément parce que je me fiais tout le temps. OK, ben des prises de sang, t'as-tu ça, puis là, faut que je compense ça. Puis malheureusement, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste qu'à un moment donné, les gens mettaient plus d'argent sur leurs suppléments, quasiment sur leur épicerie, puis ça, c'est malsain. C'est pas une bonne pratique parce que moi, mon mentor, ben il fonctionnait comme ça, mais je me suis rendu compte en vieillissant, en avançant, que ben c'était une stratégie juste pour, dans le fond, lui, il éduquait certains entraîneurs à faire ça juste pour faire plus de sous, puis je trouvais ça plate. Puis une fois que tu le réalises, j'ai réalisé ça il y a peut-être 7-8 ans, ben là, c'est là que tu fais comme moi, OK. Il y a des suppléments que je trouve pertinents, qui sont importants. Tu sais, là, je suis associé avec Shop Santé, que j'adore d'amour. Je prends beaucoup de suppléments, ben 4-5, là, des choses que je trouve vraiment clés, mais tu n'es pas obligé de sortir avec une facture de 400-500 pièces de suppléments aux 30 jours pour être en forme. T'sais. Il y a une façon de créer un équilibre, un bel équilibre à travers tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose. Puis je trouve que les entraîneurs traditionnels actuellement le font bien. C'est comme on dirait, cette mode-là a passé. Puis les naturopathes aussi le font bien. Certains naturopathes, par contre, que ne veulent pas, c'est leur modèle d'affaires. Ils ont des clients, la naturopathie est souvent remboursée par certaines assurances. Pour combien de temps, je ne le sais pas, parce que j'ai beaucoup de gens dans le domaine de l'assurance, que ce soit Sun Life ou d'autres, qui disent que c'est très sérieusement étudié actuellement. Puis, que eux, c'est leur modèle d'affaires. T'sais, la personne, entre guillemets, se fait rembourser sa consultation, puis eux, ben, ils vont chercher un extra en faisant de la vente de suppléments, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que des suppléments, ça peut être super positif. Comme je l'ai dit, il y en a que j'adore. Exemple, des électrolytes. Je prends ça tous les matins. Je vais prendre un greens, puis je vais prendre des électrolytes. Ce qui me donne réellement de l'énergie le matin, c'est les électrolytes parce que c'est une façon de me réhydrater rapidement et l'hydratation, c'est une des raisons principales de l'énergie. Fait que, tu sais, c'est une petite parenthèse rapide, mais c'est ça. Fait que ça, des fois, je trouve ça un peu plate, l'espèce de pushy-pushy de vente qui se fait à ce niveau-là. Ça, je trouve que c'est bad. Quelque chose d'autre que je trouve bad aussi, c'est les gens qui disent qu'ils ont des stratégies. Moi, j'ai développé une stratégie que t'as pas besoin de regarder tes calories. Moi, j'ai développé. Puis à chaque fois, là, ça me fait grincer des dents parce que c'est du monde, c'est comme, OK, toi, là, dans ton quartier au Québec, là, t'as développé quelque chose comme les meilleurs PhD au monde de façon internationale, les sommités qui consacrent leur vie à ça, genre. Il demande ce que toi tu dis. Mais toi tu dis ça là, puis tu dis allez payer X, venez me voir, puis je vais vous aider, puis blablabla. Mais Par exemple, il y a des médecins dans le monde, là, genre des sommités internationales là, qui disent totalement le contraire. Puis je trouve ça dommage parce que c'est pas tout le monde, comme je parlais précédemment, on a un accès à l'information maintenant, mais c'est pas tout le monde qui a le temps. Deux enfants, grosse job, grosse vie, une grosse famille. C'est pas tout le monde qui a le temps d'aller genre errer sur YouTube ou essayer de connaître. OK, mais il y a tel, mais il y a Polacek qui écrit tel livre, va lire ça. Puis c'est pas tout le monde qui a le temps de faire ça, tu sais. Fait que malheureusement, ben, ils voient un gars passer sur Facebook ou une fille à sponsoriser. Elle a l'air ou il a l'air bien sympathique, bon PR, charismatique. Il dit tout ce que tu veux entendre. Il dit que tu n'as pas besoin de regarder tes calories, de soit maigrir. Tu n'as pas besoin de ci, tu n'as pas besoin de ça. Il y a une méthode, il y a une technologie où il a fait de quoi que ça marche, tu sais. Puis malheureusement, c'est de la sauce, c'est faux, tu sais. Oui, souvent, c'est des gens qui comprennent le déficit calorique, mais qui vont y aller par la bande avec d'autres façons. Tu sais, ah, ben, tu manges plus de ci, moins de ça, moins transformé, fait que tu vas être plein plus rapidement, mais ça va donner un déficit calorique, ça revient toujours à ça. Fait que c'est ça, je trouve ça juste vraiment dommage. Tu sais, puis malheureusement, je trouve ça plate aussi pour ces gens-là. Tu sais, je me dis, Christy, tu le sais-tu que tu fais du monde? Ben, je recommence. Est-ce que tu sais que c'est peut-être pas la meilleure approche à donner aux gens? Puis ça me fait bien de la peine. Puis je trouve ça juste plate. Puis je pense qu'encore là, les gens veulent pas mal faire de l'industrie. C'est juste qu'ils se disent, ben, je veux vivre, je veux trouver une stratégie qui va aider les gens, je veux attirer les gens avec un certain discours qui semble être, je sais pas, moins challengeant, moins blah. Tu sais, quand je fais des Q&As, puis je dis aux gens, ben non, c'est le déficit calorique, c'est la base. Après, oui, tu peux travailler sur ton microbiote, ton sommeil, ta gestion, tes hormones, mais tout se passe aussi par le déficit calorique. Ben, c'est plate à dire. Puis c'est pas, il n'y a personne qui va m'appeler, oh shit, 450-234-3210, je vais prendre un rendez-vous avec un consultant d'FD Fitness pour avoir un déficit calorique, c'est plate. Mais si je disais, hey, j'ai développé une stratégie qui te permet de manger plus, puis de perdre du gras quand même, puis de manger pas mal tout ce que tu veux, parce que je me suis rendu compte dans les 20 dernières années que j'ai, avec faire des essais-erreurs, ben, j'ai mis au point un système, puis ce système-là peut te permettre d'atteindre tes résultats. Puis pendant que je dis ça, je suis en bédaine, là, avec genre un micro Rogue, puis je suis en train de te dire ça, puis là tu me regardes, t'es là, crime, Félix, et ses abdos, crime, ça doit marcher. Puis là, je fais passer plein de photos d'avant-après de monde avec des résultats puis tout ça, puis tu m'appelles. Mais c'est poche parce que, tu sais, qu'est-ce qui est le plus vendeur, guys? T'sais, est-ce que c'est moi qui vous dis, faut faire un déficit calorique, puis il faut t'assurer que tu manges pas plus? Mais ou c'est genre moi qui dis, hey, j'ai une stratégie unique, spéciale, que j'ai développée, là, tu sais, que je peux te donner pour la modique somme de blablabla, tu sais? Fait que c'est juste ça. Ça, je trouve ça ugly de mon industrie, malheureusement. Puis ça me fait de la peine. Puis je trouve ça plate. Fait que voilà, fallait que j'en parle. quelque chose d'autre que je trouve un peu bad, c'est le fait que les gyms ferment. Je trouve ça vraiment plate. T'sais, depuis la pandémie, on l'a eu vraiment rough. Et il y a beaucoup de propriétaires qui, malheureusement, ils doivent fermer leurs portes de par le fait que c'est. Il y a plein de gyms à 10$ qui ouvrent, sans les nommer, comment ça s'appelle, les Econo Fitness de ce monde et tout ça. Puis je comprends le modèle d'affaires et tout. C'est juste, je trouve ça vraiment plate. Comment tu veux qu'un propriétaire d'un gym indépendant soit capable de compétitionner quelqu'un qui, ça coûte 10$ puis qui peut venir tant de fois qu'il veut? C'est vraiment difficile, t'sais. La réalité, j'ai tout le temps eu un rêve. Je me suis toujours dit, hey, je vais m'ouvrir un gym, puis ce gym-là, ben, ça va être le gym FD Fitness, puis ça va être un gym spécialisé en recomposition corporelle. Je vais avoir un médecin qui travaille là, je vais travailler aussi sur l'aspect mental, je vais avoir un psychologue qui va venir une fois semaine, je vais avoir une référence avec des médecins privés pour prise de sang, prise en main rapide de mes clients, nanana, ça va coûter cher, ça va être du haut de gamme, mais nanana. Je vais avoir d'autres, je vais avoir des accès rapides à différents services. Mais tu sais, la réalité, c'est que si j'en parlais à mon partner tantôt au téléphone, tu sais, puis si je gagne 10 millions demain matin, si je gagne la 649, il y a quelqu'un qui sonne chez nous, ding ding, puis qui me dit, hey, je vais te faire un don, Félix, comme réalise ton rêve. Je vais le faire, mais sinon, ça serait totalement stupide. Je vais perdre tellement d'argent à faire ça. Ça va être zéro rentable. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est rendu ça. C'est vraiment difficile. T'sais, là, actuellement, je suis dans des gyms que j'aime vraiment. Je peux louer des locaux. Je suis avec d'autres gens. Puis ça fonctionne. Puis tout ça. Mais, tu sais, cette espèce de vision-là, c'est bien beau. C'est très fantasmagoré. Mais la réalité, c'est que dans notre vie actuelle au Québec, c'est pas possible parce que les gens veulent juste. T'sais, c'est ça. Ça peut pas fonctionner. Puis c'est ça. Fait que ça, je trouve ça plate que ça ferme autant puis que les gens cherchent tout le temps le deal. T'sais, le même principe que sais, mettons que tu as un entraîneur qui a fait, je sais pas, ça fait 15 ans qu'il se forme et tout ça, puis qui offre un prix, puis là, qu'il y a quelqu'un d'autre à côté qui, comme je disais tantôt, qui est juste en forme, qui offre, ça coûte 10 fois moins cher que ce que toi t'offres, ben il va aller vers lui, puis après, peut-être que le service va pas être haut de gamme ou va pas donner les résultats escomptés ou que la personne ne va pas avoir nécessairement les réponses. Puis là, tu fais comment? Ah, ouais, mais finalement, c'est pas fait pour moi un entraîneur. Mais non, c'est juste que t'as peut-être pas été vers la personne que tu avais besoin d'aller, tu sais. Souvent, c'est pas... Tu sais, faire un bon plan d'entraînement, ça se fait... C'est quand même... Tu sais, un plan générique de base correct, là, c'est quand même pas trop dur à faire. Avoir une structure alimentaire correcte, c'est pas trop dur à faire. Quand tu vas optimiser... Puis tu sais, je formais justement un nouvel employé hier, puis elle me disait, tu sais, Félix, pourquoi t'as mis ça dans le plan alimentaire de telle personne? Puis pourquoi? Puis là, j'expliquais, ben c'est parce que c'est pour monter tel nutriment, parce que cette personne-là, moi, j'essaie d'avoir tous les nutriments quand même, sans les suppléments, pour que les suppléments, j'aille juste à pallier certaines choses. Je veux avoir plus de fibres parce que je veux mettre des fibres à telle place, je veux ci, je veux ça. Tu sais, tout est pensé, tout est... il y a toute une stratégie. Mais même si je réfléchirais pas, j'aurais pas de stratégie par rapport à la création, à une structure alimentaire, ça pourrait fonctionner quand même. Par contre, c'est la réponse aux questions. C'est ça, je pense, qui fait toute la différence de est-ce que la personne est capable de répondre à toutes vos questions? Est-ce que quand vous posez des questions, vous sentez que la réponse a fait du sens, elle sort rapidement, puis c'est brillant. T'sais, moi, qu'est-ce qui m'a forcé à augmenter mes connaissances rapidement, c'est que ça fait comme 9 ans que je fais des lives. Sur un live, tu es on the spot. Quelqu'un te pose une question, tu n'as pas le choix d'avoir une réponse. Puis si tu dis de la sauce, si tu dis une réponse qui n'a aucun sens, ça paraît. Ça m'est arrivé dans ma carrière de dire, écoute, j'ai aucune idée de ce que tu me dis, je vais faire mes recherches de mon côté, mais à longue, ça fait 9 ans que j'en fais. Je peux vous dire, mes amis, j'en ai eu en tabarouette des questions. Fait que c'est ça que j'aimais faire, moi, des lives. Dans le temps, il y avait des centaines, des milliers de personnes dans les lives. Là, maintenant, les gens sont plus occupés. Il y a mieux des Q&A, ils peuvent les écouter quand ils veulent, which is perfectly fine. Mais tu sais, si tu veux voir qu'un entraîneur ou une entraîneuse est vraiment comme au sommet de son art, demande-y de faire un live. Parce que on the spot, il faut qu'il réponde. Puis là, tu vas voir, OK, y a-tu des connaissances ou y a un script pitché, genre, qui répète tout le temps les mêmes affaires, tu sais. Fait que là, ça va être vraiment plus facile de le voir. Puis mon but de vous dire ça, c'est pas de peindre quelqu'un dans un coin de mur, là. Absolument pas. C'est juste pour vous montrer quand vous travaillez avec un professionnel qui est capable d'être en live puis de vous répondre right on the spot, tu sais. Puis s'il connaît pas, ben qu'il y a assez d'humilité pour le dire qu'il sait pas. Puis c'est un conseil que je peux dire, c'est des entraîneurs qui m'écoutent, comme, faites le test. Essayez de faire des lives. Puis tranquillement, pas vite, ça va vous sortir de votre zone de confort, puis ça va vous obliger à vous améliorer. Pas nécessairement des lives sur vous, sur votre vie, des lives sur vraiment des sujets pertinents du domaine. T'sais. Ça va faire une grosse différence. Quelque chose d'autre que je trouve ugly un petit peu, ben c'est tout l'univers des aides ergogènes, des drogues de performance. Puis tu sais, je suis pas là pour juger personne de consommer des drogues de performance, mais si un gars a en bas de 20 ans ou 22 ans, puis il veut prendre des drogues de performance, puis que son but, c'est pas aller sur un stage de bodybuilding, comme, qu'est-ce que tu fais, bro? Genre, fais pas ça. Genre, c'est con, parce que tu vas scraper ton système endocrinien que tu risques de pas retrouver. Combien vous pensez de gars que j'ai eu dans mon bureau avec des bitch tits, avec du gras, le calcium au niveau des pectoraux, des seins, parce qu'ils ont fait de la test 400 quand ils étaient jeunes, ils ont pris genre du dianabol, du tirinabol, du stock là, comme pendant 2-3 mois, mais ça l'a scrappé après leur pectoraux pour la vie. Il y en a, je pourrais même pas y compter là, sur mes mains, sur mes pieds. Fait que, faites attention, je sais que la pas du gain puis les réseaux sociaux, puis je peux pas en vouloir aux gens parce que juste moi, là, je me commente sur mon For You page là, sur Instagram. Je vois des gars, genre streamer, hammer, des gars qui ont deux fois plus jeunes que moi, avec des veines là, à des places que j'ai jamais vues, puis en shape comme ça, aucun rapport avec des maturités musculaires. Tu vois des gars de 19 ans avec la maturité musculaire d'un gars de 35 ans, streamer, hammer, tu sais, populaire, nanana. Fait que c'est sûr, c'est challengeant, puis c'est confrontant. Puis la même chose pour les filles, hein. Vous savez ce que je veux dire, vous écoutez des reels de filles, genre, what I hate in a day. En reel, la fille, elle s'est abdos, elle a une taille, elle a une mini taille, elle a genre des fesses, elle a des petites cuisses tones, des petites épaules découpées quand elle bouge, des petits bras minces, puis le gros sourire de veneur d'en face, là, puis les beaux cheveux soyeux, puis là, elle a l'impression, vous avez l'impression qu'elle mange genre 3000 calories dans sa journée, c'est de la tabarnak. Fait que tu sais, c'est ça, c'est le côté réseaux sociaux, on se compare à 0.00000001% de la population, que c'est des freaks de génétique, que probablement une personne sur un million qui s'entraîne et tout ça a l'air de ça, puis vous, vous comparez à ça comme si c'était votre voisine d'en face, tu sais, fait que ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est quand les gens font du contenu sur les réseaux sociaux, ils peuvent choisir absolument tout ce qu'ils décident de vous montrer, fait que ils peuvent vous mentir, ils peuvent vous bullshiter ou à la head in a day, voyons donc, c'est pas parce que quelqu'un le fait qu'il est honnête, là. Dans la vie, OK, ça vous est-il déjà arrivé de rencontrer des gens qui altéraient légèrement la réalité à des fins lucratives ou des fins pour se sortir d'une situation de marde? Vous l'avez fait, je l'ai fait aussi. Tout le monde le fait. Pourquoi vous pensez que ces gens-là ne peuvent pas le faire sur les réseaux sociaux? C'est pas parce qu'ils pèsent « publish » que c'est la vérité infuse, là. Fait que c'est juste, posez-vous des questions, restez toujours critique envers ça, parce que c'est votre santé mentale que vous allez détériorer. Fait que c'est ça que je trouve, malheureusement, je trouve dommage dans le système de comparaison. Fait que ça, c'est ça. Quelque chose que je trouve good, par contre, dans notre univers, c'est en ce moment, il y a l'espèce de jonction entre la santé mentale et la santé physique. Tranquillement, pas vite, on démonise de moins en moins la santé mentale. C'est rendu de moins en moins tabou, which is a good thing. Fait qu'on se rend compte que c'est un esprit sain dans un corps sain, que les deux vont ensemble aussi. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment une belle avancée à ce niveau-là. Fait que voilà, les amis, c'est ce que j'avais à dire sur l'industrie du fitness, the good, the bad and the ugly. Il y a sûrement plein de choses qui m'échappent. Là. Je voulais vous parler un peu de cette réflexion-là personnelle, juste pour pas tomber dans des pièges ou avoir certaines réflexions quand vous vous jugez par rapport à votre physique parce que vous avez vu quelque chose sur Instagram ou parce que vous voyez une publicité passer puis vous dites « Ah, ça a l'air tellement merveilleux », juste pour vous faire juste réfléchir. Puis d'être, mon but aussi, c'est aussi d'être positif par rapport à des belles avancées qu'il y a actuellement, puis de se rappeler que crème, on est dans le fitness, c'est l'une des plus belles choses au monde, c'est prendre soin de sa santé. Puis je vais vous laisser avec un commentaire qui est peut-être pas le plus mentalisé possible, mais j'écoutais un spécialiste, puis le spécialiste disait, écoutez, peu importe la raison pour laquelle vous le faites, là, que ce soit parce que vous voulez être beau tout nu, vous voulez vivre plus vieux, vous voulez avoir une meilleure, sauter plus haut, whatever quoi, ben faire de l'activité physique sur une base régulière, inévitablement, va vous donner des bons, là je parle pas dans l'excès, là, mais va vous donner des bons résultats. Fait que peu importe pourquoi tu le fait que tu le fasses, ben ça va donner un aspect qui est bénéfique à ton corps. Fait que c'est une belle bougie d'allumage pour partir. Puis après, c'est là que je pense que la réflexion devrait arriver de pourquoi tu continues puis pourquoi tu poursuis à le faire. Plus que ton why est fort, plus que ton why est vrai et sincère et honnête, plus que tu vas le faire longtemps. La bougie d'allumage, entre moi et vous autres, on s'en fout de la raison pourquoi vous commencez à le faire. Le but, c'est vraiment de trouver un purpose de pourquoi vous continuez à le faire. C'est bon? Si vous avez aimé l'épisode, gênez-vous pas de partager en grand nombre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est ma plateforme principale. Taguez-moi, Félix Deg, taguez FD Fitness, consultant qui est mon entreprise. Vous voulez faire affaire avec moi, 450-234-3210. Mon site web, c'est www.fdfitness.ca. Vous allez voir nos services. Dès que vous faites une demande d'information, dans le 24-48 heures, mon agent Olivier va vous contacter. Lui va regarder avec vous vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire. N'oubliez pas, on n'a aucun contrat chez FD Fitness. On ne vous lock pas dans un contrat de... Ah, c'est un autre ugly, ça. J'en ai pas parlé, mais actuellement, c'est très à la mode. Là. C'est... Je peux pas t'aider tant que tu ne me prends pas un contrat annuel de 12 mois parce que c'est certains entraîneurs, vu que c'est une job qui est un peu incertaine, hein, parce que tu ne sais jamais est-ce que j'aurai des clients, est-ce que j'aurai pas des clients, bien, ils s'assurent d'essayer de locker des clients dans des contrats de 12 mois. Ce qui est juste dommage là-dedans, c'est que souvent, c'est le client en bout de ligne qui des fois, qui paie parce qu'il est tanné, puis après 8-9 mois, il est pas satisfait, mais il est pogné encore là-dedans. Fait que... Ça, c'est le petit côté ugly aussi. Mais bref, voilà. Fait que gênez-vous pas de nous contacter. Pas de contrat avec nous. Vous y allez à la carte. Puis on essaie de vous aider là-dedans. Et je vous dis à la prochaine. Bye!